Super Fail, Guillaume Erner.
Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer.
Super Fail.
C'est un terrible naufrage, celui d'un ferry qui reliait Dakar à Ziguinchor, le naufrage du Joula. Le navire a coulé le 26 septembre 2002, causant la mort de plus de 1800 personnes, autrement dit plus de victimes que le Titanic. C'est le Super Fail de la semaine.
Les chiffres officiels des autorités sénégalaises sont de 1863 morts et 64 rescapés. Les familles, de leur côté, recensent environ 2000 disparus.
Ô peuple de croyants, quelles interrogations, quelles solutions. Dieu ne change rien en un peuple si ce peuple ne change en lui.
Comment un navire vétuste a-t-il pu prendre la mer, transportant beaucoup plus de voyageurs que ce qui était raisonnable de faire ? Comme dans toutes les catastrophes, l'histoire du Joula que je vais vous raconter est une somme de terribles circonstances. Un bateau en mauvais état, des consignes de sécurité ignorées, un sauvetage en mer défaillant. C'est cette histoire que raconte Adrien Absolu dans son ouvrage « Les disparus du Joula » publié chez Lattès. Écoutons-le raconter.
Alors, je crois qu'il faut remonter d'abord à la genèse, c'est-à-dire à la naissance du Joula, aux conditions de sa création. Le Joula était un ferry destiné à relier Ziguinchor à Dakar. Ziguinchor, c'est une ville qui est abritée dans l'estuaire de la Casamance, et donc le bateau doit d'abord emprunter pendant environ 200 km une voie fluviale, c'est-à-dire avec un très faible tirant d'eau, ce qui ne lui permet pas d'être équipé d'une quille. Et puis ensuite, à la sortie de l'estuaire, il longe les côtes atlantiques pendant plusieurs centaines de kilomètres aussi. Donc il y avait à la fois cette dualité, ce dilemme, un bateau qui devait être conçu à la fois pour la navigation fluviale et la navigation maritime. Donc, il sort de ligne de production d'un chantier naval en Allemagne en 1990. Il est financé par un prêt de la coopération allemande. À l'époque, c'est un bateau, évidemment, qui respecte tous les standards de sécurité, de navigabilité. Ça dure environ 5 ans, jusqu'à l'année 1995, où sa gestion est transférée à l'armée sénégalaise, notamment pour des raisons de sécurité intérieure, puisque le conflit historique entre la Casamance et le reste du Sénégal est entré à nouveau dans une phase active. Et à partir de là, en fait, on note la suspension des travaux de maintenance. Régulièrement, le bureau de contrôle Veritas opère des visites du bateau, fait un certain nombre de recommandations, un peu comme à l'issue d'un contrôle technique, mais elles ne sont jamais suivies d'effet. Par exemple, le bureau de contrôle Veritas note que la pompe à eau de mer n'est pas opérationnelle, que le groupe électrogène est hors service, qu'un des ballasts d'eau salée est perforé, qu'il n'y a plus d'alarme incendie, etc. La liste est longue comme le bras. Et en fait, ces travaux de réhabilitation ne sont jamais entrepris, qui aboutit, après des années de tergiversation, à la déclassification du Joula par les services de Veritas le 23 septembre 2000. Donc en fait, il avait déjà à plusieurs reprises navigué dans des conditions plus qu'anormales, dangereuses, avec une surcharge de passagers. En 1999, par exemple, il a rapatrié de 1900 soldats sénégalais du théâtre d'opération où ils intervenaient en Guinée-Bissau. Le 26 mai 2001, il est tombé en panne au milieu de l'océan. Il a pu donner de nouvelles pendant près de 23 heures. A posteriori, on estime que ça aurait dû être un peu la sonnette d'alarme qui retentit. Il a été immobilisé pendant 13 mois pour des travaux de façade, simplement des rustines, un vernis, mais au niveau de ses structures, il est resté dans un état relativement délabré. Et puis arrive ce jour fatidique et tragique, le 26 septembre 2002, où il y a un enchaînement de circonstances au désavantage du bateau qui se cumulent l'une l'autre, c'est-à-dire à la fois une surcharge passagère comme probablement il n'y en avait jamais eu. Ça s'explique par le fait qu'on est à la veille de la rentrée universitaire et qu'il y a de nombreux étudiants casamançais qui ont passé l'été aux travaux des champs avec leur famille et qui prennent le bateau pour retourner à Dakar. Ces circonstances, ce sont aussi une météo calamiteuse avec des pluies tropicales et un vent qui souffle de plus en plus fort au fil des heures. Et puis, on peut aussi dire une erreur de navigation. Il aurait fallu que le capitaine ramène le bateau face au vent pour le stabiliser à la cape. Et en fait, il a pris la décision de couper les moteurs. Donc, cet enchaînement de circonstances fait qu'en quelques minutes, à 23 heures, le bateau se retourne. Ce qui paraît incroyable, il se retourne comme une calebasse. L'angle de gîte s'accentue. Et puis, tous les passagers se réfugient du même côté, tribord du bateau, pour éviter les gouttes de pluie. Les véhicules dans les caves commencent à riper. Ils n'avaient pas été amarrés. Tous ces transferts de poids renforcent l'inclination du bateau qui chavire.
Et elle me dit, Patrice, c'est normal ce qui se passe là? Je vois dans son regard qu'elle comprend.
Je vois des gens qui tombent du matériel, parce que le matériel de sonorisation, les baffles, les guitares, des gens qui tombent. Et tout d'un coup, il y a une coupure d'électricité.
D'abord, la télé qui s'éteint. Il y a des objets qui commencent à bouger. Et puis, on se retient l'un à l'autre. On ne sait plus où on est, dans le noir, là. Le bateau continue de se retourner. J'entends un immense cri. Un immense cri.
Le sauvetage en mer est lui aussi incroyablement défaillant.
Et donc, assez rapidement, l'eau entre dans le bateau par les hublots qui étaient restés ouverts. Il faisait une chaleur assez étouffante cette nuit-là. Immédiatement, il y a un grand nombre de passagers qui décèdent par noyade. D'autres qui meurent étouffés sous le poids des corps ou du matériel qui se renverse dans le bateau. Et puis, il y a un certain nombre de personnes, une petite centaine, qui se jettent à l'eau et qui réussissent à nager autour de l'épave. Pendant plusieurs heures, certains réussissent à monter sur la coque, d'autres s'agrippent à des matelas pneumatiques qui ont été libérés au dernier moment ou à des bouts de cordes qui sont encore amarrés au bateau. Et les secours mettront plus de 12 heures à arriver, en fait, hein, puisque le naufrage a lieu à 23 heures et les premiers bateaux de la marine sénégalaise seront sur place à 8 heures au petit matin. Donc, on dénombrera au total 64 rescapés, des gens qui ont réussi à passer cette nuit-là au milieu de l'océan, dans un noir complet.
D'où des responsabilités diffuses.
Ça s'explique à la fois par le fait que le bateau n'était pas équipé des moyens de communication qui auraient dû être les siens, c'est-à-dire une radio VHF, des fusées de détresse, éventuellement une liaison satellitaire. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, on peut aussi mettre ça sur le coup de la négligence des autorités sénégalaises en responsabilité à l'époque. Il se dit par exemple que le ministre du Tourisme aurait été informé du naufrage au milieu de la nuit, mais n'ayant pas le numéro de portable de ses collègues compétents pour gérer une telle opération de sauvetage, comme le ministre de l'Intérieur par exemple, il aurait décidé de se rendormir et d'attendre le petit matin. De la même manière, une anecdote qui est révélatrice du peu de considération apportée par les plus hautes autorités sénégalaises au naufrage, c'est que le chef d'état-major des forces armées, le vendredi matin, bien qu'il ait été informé du naufrage, décidera malgré tout de prendre son petit avion de l'armée sénégalaise pour se rendre à Saint-Louis pour aller remettre des médailles à des hauts gradés dans le cadre d'une cérémonie de décoration. Lors des veillées funéraires qui ont suivi le drame les soirs suivants, ou alors que l'audience se recueillait en chantant des chants religieux, il s'est exclamé « ce n'est pas Dieu qui a construit le bateau et ce n'est pas lui non plus qui était à la barre ». On voit bien la grande frustration pour les très nombreuses familles de victimes qui ont porté plainte contre l'État sénégalais quelques semaines après le drame. Le motif d'inculpation de l'État, c'était la négligence. Je crois effectivement que c'est un motif tout à fait valable. Dans la survenue des faits, il est assez difficile d'établir des responsabilités très précises. Les responsabilités sont diffuses, mais on a le sentiment, en tout cas, que au fil des ans, l'État sénégalais a toujours considéré que, d'une part, l'entretien du Djola n'était pas sa priorité, et notamment au regard des moyens budgétaires qu'il pouvait lui consacrer, et d'autre part, que le Djola finirait toujours par arriver à bon port et qu'aucune catastrophe sérieuse ne devait survenir. «
Imaginez par exemple qu'il n'y avait pas de Français ou bien d'Européens dans le Diola. Le dossier était clos. Parce que les autorités qui étaient là ont tout fait pour l'enterrer. Heureusement qu'il y avait des Français qui ont mesuré la portée de ce dossier et qui ont pris leur courage à deux mains pour porter plainte. Aujourd'hui, nous les encourageons tout simplement et nous leur disons que nous sommes derrière eux. Et tout ce qui est de notre possible, tout ce qu'on pourra faire pour faire avancer ce dossier, nous le ferons. Parce que la démarche qu'elles ont adoptée, c'est une démarche fondamentale. Ces familles luttent pour que la vérité soit faite. On en a besoin. Elles luttent pour que le renflouement soit, le bateau soit renfloué. Nous en avons besoin. Elles luttent pour la justice. Nous en avons besoin. Elles luttent pour la mémoire des familles des victimes. Et ce n'est pas seulement pour les Français, mais c'est pour toutes les victimes. Les 1953 morts. Donc nous les invitons vraiment à persévérer. Nous sommes derrière eux. Nous allons continuer le combat ensemble.
Le naufrage du Joula jette une lumière crue sur la situation du Sénégal.
Ça raconte le fait que, un peu comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, on parle au Congo de l'article 15, je crois, qui veut dire l'article qui invite chaque citoyen à se débrouiller lui-même, un article imaginaire de la Constitution. Au Sénégal, de la même manière, règne assez largement l'économie informelle, la difficulté pour chacun d'assurer la subsistance de son foyer. C'était le cas au début des années 2000. Et donc on peut comprendre aussi, par exemple, que le guichetier qui était en charge de commercialiser les billets à l'embarcadère de Diguinchor ait pu être tenté de vendre davantage de billets, de créer une billetterie parallèle pour mettre un peu de beurre dans les épinards, selon l'expression. Donc il y a eu des dysfonctionnements à tous les niveaux, à la fois individuels et à la fois institutionnels. Et ensuite, une prise de conscience de la société sénégalaise sur le fait qu'il fallait que quelque chose change en profondeur. Dans les mois qui ont suivi le naufrage, il y a eu une généralisation des contrôles en matière notamment de transport, la charge à l'issue des camions, l'obligation du port des gilets de sauvetage, le respect de la jauge dans les trajets interurbains, etc. Il y a eu un déclic qui a eu lieu, mais je crois qu'au fil des ans, un certain retour à la normale s'est opéré, ou retour à une situation anormale. Ça prouve que la survenue de ce naufrage est un peu consubstantielle de la manière de vivre en société de l'État du Sénégal.
Pour en savoir plus, je vous conseille de lire l'ouvrage d'Adrien Absolu, Les disparus du Joula, aux éditions Lattès, ou bien d'entendre le Sur les docks, dont vous avez entendu des extraits, un Sur les docks signé Jean-Philippe Navarre et Alain de Valpo.
Eulub subatel ken du dem Dakar neysan.
Superfell a été piétiné par Juliette Devaux, gâché par Emmanuel Dupin, bousillé par Clémence Gros et dévasté à la réalisation par Félicie Faugère.